Tout pour investir. Investir autrement.
Il débarque d'Euronext pour nous rejoindre, notre monsieur ETF. Bonjour Arnaud Gian.
Bonjour Lorraine.
Responsable d'iShares et Wells en France, Belgique et Luxembourg. Il en a la cravate de travers. C'est normal parce que votre matinée a été dense, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Vous nous faites la gentillesse de venir en plateau, comme vous le faites souvent le jeudi, pour nous parler de notre PEA, pour nous parler d'ETF et d'un produit que BlackRock et votre équipe lancent à destination de nous, les Français. C'est suffisamment rare pour le dire, que BlackRock fasse des choses pour nous, les Français en particulier.
C'est effectivement, en tout cas, on a vocation à vraiment apporter le côté local. Et là, on le démontre encore une fois. Ravi déjà de l'invitation. Et du coup, en fait, il n'y a pas quasiment un passage sans lequel vous ne posez pas la question de savoir dans le monde du PEA qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, on est ravis de pouvoir partager cette très bonne nouvelle.
Mais oui, on est sur un fil rouge dans l'émission avec Marie-Christine Sonquin des Échos juste avant vous. On parlait des jeunes, on disait que c'était bien d'ouvrir un PEA dès son plus jeune âge. Une des limites souvent qu'on pointe du PEA, c'est le fait qu'il n'est pas très international. Mais c'est faux, on la démontre régulièrement, cette limite. Mais il y a toujours en France, il y a cet engouement pour les trackers. Et dans son PEA, comme dans son assurance vie, on peut mettre des trackers. Racontez-nous, donnez-nous un petit peu de chiffres pour commencer de manière un petit peu globale.
Avec plaisir. Donc déjà, comme vous le savez, l'investissement en France s'articule autour d'une part l'assurance vie, 2000 milliards sous gestion, c'est vraiment le gros paquebot dans lesquels il y a eu énormément d'évolutions sur les dernières années. Il y a environ 10% de l'offre en unité de compte qui se trouve être des trackers. Donc il y a un travail qui est en cours, mais il y a déjà en fait un choix qui est assez large avec des expositions internationales comme vous le mentionnez. Le deuxième gros marché, c'est effectivement le marché PEA. C'est environ 100 milliards d'euros. C'est environ 5 à 6 millions de Français qui ont en fait un PEA. Comme vous le savez, en fait, on ne peut en avoir qu'un seul. Mais effectivement, l'offre est relativement limitée en termes de diversification internationale, puisque c'est environ 20% de ce qu'on va retrouver en tracker et en ETF et en OPCVM qui vont avoir ce caractère international qui est en fait crucial pour l'investissement de long terme. Quand on regarde des chiffres et qu'on dézoome à l'échelle européenne où on n'a pas en fait ce prisme de PEA, 30% de la collecte se porte sur ces indices mondes. On a effectivement un ETF par exemple chez nous qui n'est pas PEA-able, qui est là depuis un certain temps. Sur l'indice monde, il est passé de 50 milliards à 75 milliards de dollars en actifs sous gestion sur les 12 derniers mois. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un marché qui s'est retailisé. Donc en fait, les ETF, c'est plus du tout un produit qui est à destination des institutionnels seulement. On a vraiment une translation vers le marché retail. Et en fait, c'est le produit rêvé, entre guillemets, diversification maximale, des frais de gestion qui sont relativement limités et du coup, une efficience en termes de coûts de détention.
Une forme de transparence pour un produit presque à l'étagère, comme on dirait en franglais. Bon, vous venez avec cette actualité d'un nouvel ETF. On comprend que le marché français intéresse, parce que la France se met aux ETF un peu moins vite que l'Allemagne et que certains de nos voisins. Mais pourquoi faire ce produit ?
Alors, en fait, on a vraiment le mariage des deux mondes. On expliquait, en fait, le marché français déjà a une appétence pour l'investissement qui est grandissante. On le voit, en termes d'offres, mais aussi en termes de demandes. Et ça a été quand même accéléré aussi dans les années Covid. On s'est porté un peu sur les banques en ligne et l'investissement. Et ensuite, le deuxième phénomène, c'est effectivement le besoin de diversification, l'exposition monde qui elle en fait est plébiscitée par les investisseurs de long terme, et vraiment en fait c'est marier ces deux mondes. Donc on l'a évoqué, diversification 1500 entreprises, je crois qu'il y a 24 géographies, la France est numéro 4 du tableau, les États-Unis bien sûr en numéro 1, on a 11 secteurs, donc on a vraiment la vue globale. Le deuxième aspect qui est vraiment crucial pour justement aller au plus proche des investisseurs finaux qui souhaitent l'utiliser, c'est l'accessibilité. Cette accessibilité, maintenant, elle est dans le monde du PEA, donc c'est déjà un très grand pas. On a voulu en fait faire en sorte que le produit remplisse tous les aspects qui sont chers aux Français en termes d'investissement long terme. Le prix d'une part d'un ETF, c'est quelque chose qui est aussi assez important, il est de 5 euros.
C'est-à-dire qu'on peut commencer à investir dès 5 euros.
On peut commencer à investir dès 5 euros.
Acheter cet ETF, le prix de part, 5 euros.
Exactement. Il est coté en continu, ça c'est la base de l'ETF, sur Euronext Paris. Mm-hmm. Donc on est au plus proche du marché local. Et les frais de gestion sont de 0,25% annuel. Donc, très compétitif.
Bon, côté en continu à côté de chez nous, un prix abordable, des frais de gestion bon, alignés avec ceux des ETF, c'est-à-dire toujours évidemment qui semblent faibles comparés à d'autres produits. Si vous devez résumer l'esprit de ce produit, on vous fabriquait un ETF monde, vous l'avez dit, qui va suivre beaucoup de pays, beaucoup de secteurs aussi. Comment on peut le résumer? Qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi on y va les yeux fermés? Enfin, pourquoi on irait les yeux fermés? Ça veut faire de la pub.
Le baromètre du marché, donc dans lequel le but, c'est d'avoir une collection de valeurs. Je l'ai dit, 1500, c'est tout ce qui est catégorisé dans les grandes entreprises de capitalisation boursière. Donc, on va retrouver nos 40 blockbusters français. On va retrouver ceux des États-Unis avec les 500, S&P 500, etc. Donc, on a vraiment un panorama.
Et qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans, alors?
Il ne va pas y avoir le marché des small caps. Et même celui des moyennes entreprises. On ne va pas retrouver les pays émergents, donc on est sur des pays développés. Et on ne va pas avoir une surreprésentation d'un secteur par rapport à son poids dans l'économie réelle. Donc c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est qu'on accompagne les tendances qui sont actuelles, puisque... par exemple, le poids des technologies dans cet indice, il est de 23%.
Donc, vous compensez le poids qu'il a dans la S&P avec d'autres choses?
Non, c'est pas ça. C'est qu'on accompagne, en fait, la part grandissante de chaque secteur et de chaque valeur dans l'économie. Donc, aujourd'hui, le poids des technologies dans cet indice, il est de 23%. Mm-hmm. Il était moitié moindre il y a encore 7 ans. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est davantage lié à cet engouement. Donc, il y a une forme... Alors, je vais utiliser un jargon, j'utilise le mot « momentum », qui est quelque chose en fait, qui est assimilé à ce type d'indice. Donc, on suit en fait, la tendance de fond les secteurs qui ont le vent dans le dos au travers de ces indices. Très diversifié.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent vous allez dévoyer l'esprit du PEA qui était quand même initialement mis en place pour qu'on puisse investir sur les marchés France et Europe?
Alors, pour être éligible au PEA, ce qu'il faut, c'est que le fonds détienne plus de 70% de son portefeuille dans les actifs européens, donc des valeurs actions. Européenne. C'est ce que va faire effectivement cet ETF, même davantage que ce ratio de 70%. Pour
combien?
Effectivement, le but c'est d'être à 100%. Après, il y a des aspects techniques qui vont probablement nous faire vaciller entre le 90 et le 100%. Mais c'est vraiment l'esprit de cet ETF, c'est de détenir ces grandes valeurs françaises, européennes, allemandes. Pour effectivement continuer à alimenter le circuit des marchés de capitaux européens au travers de cet ETF.
Arnaud, d'habitude, vous venez répondre aux questions de nos auditeurs sur les ETF, sur ce créneau. Est-ce que vous pouvez essayer de répondre au pied levé à un de nos auditeurs qui concerne les ETF indexés sur les marchés étrangers? C'est Adriane qui m'a écrit. Vu que les heures de cotation de ces index est décalée par rapport aux heures de trading européens, comment est-ce qu'on calcule la valeur exactement? Vous pouvez nous expliquer ça simplement en une minute?
Oui, très rapidement. Il y a deux prix qui importants. Il y a un prix de valorisation. Celui-là, il intervient une fois par jour. Il se base sur les cours de clôture officiels de chacune des valeurs. Et il ne peut pas intervenir du coup en continu. La la particularité de l'ETF, c'est qu'il a un cours en continu. Celui-ci est un reflet d'une valorisation faite par le marché. Donc c'est là en ça qu'il y a une efficience. Les acheteurs et vendeurs se rencontrent. Sachant qu'on est bien aidé par les marchés de capitaux qui, eux, traitent quasiment, j'ai envie de dire, 5 jours, 24 heures sur 24. Dans la mesure où, lorsque là, aujourd'hui, je vous parle, les marchés américains sont fermés.
Oui.
Sauf qu'il y a des futurs sur les États-Unis qui sont ouverts en cotation réelle. Et aujourd'hui, Tokyo est, enfin, à cette heure-ci, Tokyo est fermé. Même pareil, le Nikkei cote. Donc, en fait, on arrive à avoir une très bonne valorisation estimée, certes, de ce que vaut l'ETF aujourd'hui à 11h50 en ce jeudi.
Voilà le calcul que vous pouviez nous expliquer en quelques secondes. Merci beaucoup Arnaud Géant et l'équipe iShares et Wells maintenant. Avec nous souvent le jeudi et aujourd'hui en particulier sur le PEA et comment on peut accéder aux actions monde grâce à des nouveaux produits qui voient le jour spécifiquement pour le marché français.